Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors on commence avec une polémique. Tiens, je me demande bien de quoi tu vas nous parler.
Oui Rémi, parce que comme May un petit peu plus tôt, j'ai moi aussi envie d'en découdre. Alors chers auditeurs et auditrices, vous avez sans doute vu passer cette semaine une tribune dans Le Monde, écrite par Sarah Chiche, Catherine Millet, Catherine Robe-Grillet, Peggy Sastre et Amnous Salmani, toutes connues pour être de grandes théoriciennes du féminisme, surtout Peggy Sastre. Autrice de « La domination masculine n'existe pas ». Le texte a été co-signé par une centaine de personnalités de genre féminin avant de paraître dans la rubrique « Tribune » du site internet du Monde et il a été repris dans la version papier du quotidien pas plus tard qu'hier. Cette tribune s'intitule donc « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ».
Alors qu'en disent-elles les autrices de cette tribune ?
Eh bien elles disent porter une autre parole que celle des femmes qui ont témoigné de leurs agressions cet automne, avec les hashtags MeToo et Balance ton porc. En substance, elles affirment que le puritanisme a gagné la France, que les dénonciations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols sont les manifestations d'une haine des hommes et d'un totalitarisme, que les femmes ne sont pas bêtes et qu'elles peuvent toujours éconduire un dragueur lourd, un frotteur, sans en être traumatisées à vie. Curieusement, cette tribune ne parle jamais de la honte, de la peur, de la colère ou de la saleté que l'on ressent après une attaque sexiste. Curieusement, cette tribune ne dit jamais que la violence masculine est peut-être une manifestation de haine pour les femmes. Alors évidemment, je ne suis pas la seule à réagir, le débat s'est ouvert. À l'étranger, on a le droit à un certain nombre de poncifs, comme quoi la seule critique du mouvement MeToo pouvait venir de la France, le pays de la galanterie, du libertinage, des mœurs sexuelles débridées. Seule la France pouvait s'attaquer à MeToo, comme le résume le Courrier international, si vous souhaitez avoir un aperçu rapide des réactions favorables à cette tribune dans des journaux étrangers. Mais c'est un fait, c'est bien en France que 100 femmes de milieux privilégiés, blanches, âgées, ont choisi de prendre position contre les victimes plutôt que de les écouter.
Et un quotidien national a réagi ce matin.
Tout à fait Rémi, on pouvait retrouver dans les kiosques la une engagée de Libération, je cite « La liberté sexuelle menacée, vraiment ?» avec les visages de Catherine Millet et de deux signataires, Catherine Deneuve et Brigitte Lahaye. Alors je précise d'ailleurs que ce qu'on appelle partout la tribune de Deneuve n'a pas été rédigée mais seulement signée par elle.
Elle aurait bien été incapable de rédiger quelque chose qui dépasse les 20 mots.
Voyons Rémi. Alors, Libé prend position avec un dossier de 3 pages. La journaliste Cécile Domas propose dans, je cite, « sans signataire aux signaux contradictoires », un travail de recontextualisation un peu précis en cherchant qui sont les fameuses signataires de cette tribune. Et elle montre que la liste mélange aussi bien des femmes issues des milieux de la culture ou du monde du spectacle, où elles occupent une position plutôt stable et dominante, mais aussi des conservatrices et des antiféministes, Elisabeth Lévy par exemple. En somme, beaucoup de confusion. Enfin, on trouvera aussi dans le numéro de ce matin un article collectif de réponse en 4 points à la tribune pour la liberté d'importuner. C'est sous le titre « Réponse choisie pour des morceaux de choix ». Alors à mon sens, le point le plus intéressant, c'est celui où le groupe de journalistes montre que, contrairement à ce qu'affirment les autrices de la tribune, aucun homme n'a vu sa carrière brisée irrémédiablement en France par des dénonciations en ligne. Autant aux États-Unis, une centaine d'animateurs, hommes politiques et artistes ont complètement disparu de la sphère publique, ça n'est absolument pas le cas en France, où, de toute façon, à peine une dizaine de noms de personnalités auraient circulé. On ne va donc pas trop forcer le trait sur la vindicte publique et la délation massive.
Et passons maintenant à la presse hebdomadaire et puis à celui qui en fait la une.
J'ai nommé notre bien-aimé président Macron.
Ah.
En une du Point aujourd'hui, un photomontage de toute beauté fait par un stagiaire manifestement sous-payé. Vous y verrez un génie Macron qui sort de sa lampe dans un nuage vaporeux. Tout ça pour illustrer la grande question en couverture. Je cite « La France va-t-elle vraiment mieux ?» Alors le sommaire annonce pêle-mêle un sujet de société. Vive le narcissisme, un sujet d'économie, enquête sur la France, le nouveau pays de l'optimisme, et un entretien politique avec Bruno Le Maire. Autant vous dire que je n'avais pas franchement envie de feuilleter davantage le Point ce matin. C'est pourquoi nous allons plutôt nous concentrer sur l'Obs, qui paraissait en kiosque hier aussi. Alors s'il y a un an, on trouvait encore des unes présentant Emmanuel Macron comme le grand sauveur de la France au visage d'ange, ce n'est plus le cas aujourd'hui, après l'avoir porté au nu l'hebdomadaire propose, pour une fois, un visage présidentiel entravé de barbelés et une police rouge sang. En gros titre, migrants, bienvenue au pays des droits de l'homme. À l'intérieur, un dossier de 8 pages consacré à cette hypocrisie française, alors qui certes n'est pas neuve, c'est bien de se réveiller, l'Obs. En 2017, 40 000 réfugiés ayant fait une demande d'asile peuvent être expulsés vers un autre pays d'Europe, c'est ce qu'on appelle les Dublinés, et on trouvera des contributions de Jean-Marie Le Clézio et Patrick Boucheron notamment. On pointe le double discours de Macron, qui présente ses vœux aux réfugiés d'un côté tout en signant de quoi les expulser de l'autre. Pour rappel, il y a actuellement en France un réfugié pour 1340 habitants seulement d'après Eurostat. En Allemagne, il y en a un pour 141.
Et pour la fin de ta revue de presse, tu as pensé à quelqu'un en particulier.
Oui, Rémi, je dédie cette dernière partie de ma revue de presse à Maëlys, notre généalogiste devant l'éternel à Transistor. Le numéro de janvier du Monde diplomatique attire notre attention sur une manifestation inattendue du capitalisme. Le commerce de données généalogiques, parce que le capitalisme, ça s'infiltre partout. C'est à retrouver en page 16 dans l'article intitulé « Le négoce des ancêtres ». On y découvre que les leaders mondiaux des archives généalogiques sont, d'une part, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, enfin les Mormons quoi, qui proposent la consultation de leur base de données gratuitement, et une poignée d'entreprises qui monnaient bien sûr leurs services, en plus de divers autres services comme par exemple des tests ADN. En fait, on se retrouve dans une situation d'oligopole dans lequel tout le travail de collecte effectué patiemment par des archivistes et des amateurs ou amatrices pendant des décennies, eh bien tout ce travail gratuit est actuellement mis en marché au profit de quelques grands groupes et c'est fort lucratif. Une de ces entreprises, 23andMe, a d'ailleurs revendu les données personnelles de ses clients à une dizaine de laboratoires pharmaceutiques il y a peu. Bref, on est face à un capitalisme patrimonial qui interroge. La ressource archivistique, elle est limitée, elle n'est pas défendue comme patrimoine commun de l'humanité actuellement. Il est peut-être temps de réfléchir aux moyens de protéger cette ressource et de lutter contre les situations de monopole. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette revue de presse.
Merci beaucoup à toi Marie, comme quoi parfois l'historienne se réveille encore sous la géographe, l'avoue ça.
Oui, ça surgit parfois.
Ça surgit. Eh bien, on va terminer avec l'actualité, si tant est qu'on puisse parler d'actualité avec le peu qui reste. Et pendant que nos amis de la culture se mettent en place, c'est parti pour les pieds dans le tapis.